Bonjour. Bon, et bien maintenant, nous fêtons les 10 ans du MUCEM et aussi les 10 ans d'un partenariat avec une association qui s'appelle Histoire Vraie de Méditerranée. Histoire Vraie au pluriel, bien sûr. Donc, cette association rassemble des gens de tout le pourtour de la Méditerranée conçue comme une mosaïque et non pas comme un espace unique, et l'association conçue comme étant apte à produire des ponts entre ces différents espaces. Donc on écoute les gens en différentes langues, et souvent les gens qui n'auraient pas pu produire leurs histoires tout seuls. Donc cette association sert à ça. Ce matin, vous avez entendu, si vous étiez là, des histoires vraies du dedans. Il s'agissait de donner la parole à des gens qui étaient enfermés en prison. Donc c'était dans différentes prisons de la région et ils ont parlé en langues qui sont leurs langues à eux, le rom, l'arabe, et il y a eu des traducteurs et des écrivains qui ont retranscrit. Là maintenant, on va entendre des histoires vraies de petites îles de Méditerranée. C'est dans le cadre d'un partenariat avec l'école française de Rome. Et donc Marine Vlahovic revient d'Ischia, une petite ville de Méditerranée, une petite île de Méditerranée, et elle a recueilli quelques histoires. Certaines vont être lues par Daniel Mesguich, que nous remercions beaucoup de prêter sa voix à cette opération. Et ces histoires, pour celles que vous allez entendre en langue originale, sont en italien, en napolitain, enfin Ischia, c'est le sud de l'Italie. Donc cette association Histoire Vraie de Méditerranée, que vous pouvez retrouver sur notre site https://histoirevraie.org, sur notre site vous pouvez retrouver un tas de petites histoires courtes. Et là, aujourd'hui, ce sont des histoires de Ischia qui vont être lues par Daniel Mesguich, que encore une fois nous remercions.
Une pierre sur la mer, par Vincenzo O. Cantone, 75 ans, à Lago Ameno. À Ischia, nous avons pour habitude d'attribuer un surnom à chaque famille. On en finit par oublier nos patronymes. Dans mon cas, on m'appelle Vincenzo O. Cantone, littéralement, la grosse pierre, en dialecte. Pourquoi je m'appelle Ocantone? L'un de mes ancêtres était marin. Il transportait le vin produit à Ischia sur le continent. Il naviguait jusqu'à Civitavecchia et Gênes. Il lui est même arrivé de faire du cabotage jusqu'à Marseille. Un jour, son bateau arrive en fin de vie. Il doit le remplacer. Il fait alors construire un nouveau voilier et donne des instructions précises au charpentier. Son bateau doit être plus large que la normale. Il tient absolument à loger un tonneau de vin supplémentaire dans la cale pour ses prochaines cargaisons. Le jour de la mise à l'eau, mon ancêtre devient la risée des autres marins. Son voilier, qui ne respecte pas les proportions classiques, n'a rien d'un bateau élancé. Il est épais et trapu. De loin, il ressemble à une grosse pierre posée sur la mer, à l'image de l'île d'Ischia.
Tormenta, nata a Marina di Cantone, penisola sorrentina, sono nati in mezzo a sei maschietti, 17 di aprile di Venerdì Santo alle 17 di sera. Qui si dice che il 17 porta sfortuna, invece no, tutto il contrario. E mi chiamarono pure Tormenta, perché mio padre diceva che tutta la penisola si era ammantata di neve. Chissà se è vero, però. Punto interrogativo, però, perché mio padre era stato parecchio in Argentina e lì mi diceva qualcuno che in Argentina questo nome c'è, esiste. Lui mi voleva chiamare Tormenta come primo nome. E poi E mia nonna materna, che viveva là Cameno con il marito e i figli, con la tonnara, prese questa bambina e mi portò là Cameno per un periodo. Invece ci restai con la nonna, mi affezionai, la nonna mi tirò su e sono cresciuta qui. Alla nonna non piaceva questo nome, non mi hanno interpellato, diceva che brutto nome che ti hanno messo. Hanno fatto di testa loro, ce l'aveva con la figlia, perché qualcuno mi diceva sei un tormento.
Tormenta, dite Pupetta, 93 ans, Lago Ameno. Je m'appelle Tormenta, c'est-à-dire tempête. Je suis né au beau milieu d'une fratrie de 6 garçons sur la péninsule de Sorrente, un 17 avril à 17 heures. Ici, on dit que le 17 est synonyme de malchance. Dans mon cas, c'est tout le contraire. On m'a prénommé ainsi parce que mon père racontait que le jour de ma naissance, une tempête de neige s'est abattue sur la péninsule de Sorrente. Reste à savoir si c'est vrai. Mon père avait vécu longtemps en Argentine. On m'a dit que c'était un prénom courant là-bas. Ma grand-mère maternelle, qui vivait dans le village de Lago Ameno, à Ischia, avec son mari et ses enfants, m'a prise avec elle quelque temps. Elle m'a élevée. Mais elle n'aimait pas mon prénom. Il est affreux. Tes parents n'en ont fait qu'à leur tête. Elle en voulait vraiment à ma mère. Certains me disaient, tu es un tourment. Alors, on m'a rebaptisé Papettine, la toute petite poupée. À la puberté, j'ai hérité du surnom de Poupette, la petite poupée. Désormais, je suis vieille et on m'appelle Poupa, tout court. Le chiffre 17 ne m'a pas porté malheur. Je vis toujours à Lago Ameno, dans l'appartement de mes grands-parents, où je suis arrivé il y a 90 ans. Mon grand-père supervisait la tonara, la pêche au thon, dans la madrague de Lago Ameno. Et c'est cette histoire que je peux vous raconter. La pêche à la madrague est un métier qui se transmet de père en fils depuis des siècles. Il faut un cerveau d'ingénieur pour installer ces filets conçus pour attirer les poissons, surtout les thons. Mon grand-père est analphabète. Il sait à peine écrire son nom, mais il a l'esprit agile. Il est à la tête d'une flotte de 5 bateaux et d'une trentaine de marins. Un jour, une baleine et son baleineau s'enfilent dans la madrague et restent coincés dans les filets. Impossible de les sortir sans renfort. Le navire de Naples, appelé en urgence, tarde à arriver. Prise au piège, la baleine jaillit hors de l'eau et entraîne avec elle les mailles en noix de coco, les câbles d'acier et les flotteurs de liège et de verre. À chaque saut, elle expire une immense colonne d'eau en hurlant « Ouh !» Tout le village est rassemblé sur la plage pour assister à la scène. La madrague est à quelques centaines de mètres du rivage. On y voit clair. À intervalles réguliers, la baleine plonge, puis émerge. « Ouh !» J'ai 4 ans à peine. Et je m'agrippe au cou de ma grand-mère. Je suis effrayé. Le bateau remorqueur arrive enfin. Il est muni d'un canon pour tirer sur la madrague et laisser ainsi la voie libre à la baleine et son petit. Le navire fait feu. Les filets se déchirent. La mère réussit à s'échapper. Le baleineau, lui, est touché. Il expire sur le navire qui transporte sa dépouille de 10 mètres de long. La madrague est détruite et mise hors service quelques mois, le temps de tout réparer. Puis, la pêche reprend de plus belle. À cette période, en mai-juin, la madrague capture jusqu'à 17 000 maquereaux, bonites et autres poissons. Ils sont conservés dans une grotte creusée dans la falaise de Montevico avant d'être vendus à Naples. Dans ce petit village de paysans et de pêcheurs, l'entreprise flottante a le vent en poupe jusqu'en 1959. Au début des années 1950, Angelo Rizzoli, un éditeur et producteur de cinéma milanais plein aux as, tombe amoureux d'Ischia. Il restaure les thermes de Lago Ameno et construit des hôtels. Mais la madrague gêne les bateaux de plaisance. Après les baleines, c'est au tour des yachts de s'accrocher aux filets. Mon grand-père, déjà avancé en âge, se retire à Procida, son île natale. Sa mort sonne le glas de la pêche au thon à Ischia. La Malrague est démantelée, mais les hôtels sortent de terre. Le Regina Isabella, le Reginella et tant d'autres. Les habitants y trouvent du travail déclaré. Ceux qui ont un bout de terrain construisent des logements touristiques. La grotte, qui faisait office de chambre froide pour la conservation du thon, est transformée en bar ou en salle de bal, je ne sais pas, je n'y ai pas mis les pieds, ou une seule fois seulement, même si à l'époque des Rizzoli, on ne manquait pas de lieux pour s'amuser. Toute la fine fleur du cinéma venait ici. C'est ainsi que Lago Ameno est devenu un bijou, une conca d'oro, c'est-à-dire une coquille d'or. L'île au trésor. Domenico, 40 ans, Lago Ameno. Un matin, je prends la route de Sant'Angelo pour ramasser les déchets sur la plage. Je suis un écolo, je fais attention à ne pas consommer de plastique et je profite toujours de ces opérations de nettoyage pour récupérer des objets rapportés par la mer. Je trouve d'abord des bouées, quelques menus objets à recycler, puis je décide de pousser un peu plus loin. À l'endroit précis où une plateforme qui était là depuis des années vient d'être démontée. Un bout de sac en plastique émerge du sable. Je creuse un peu, je découvre des sachets recouverts d'algues. À l'intérieur, des fragments des billets de banque. 10 000 lires, 50 000 lires, 100 000 lires, 500 000 lires. Tout tremblant, je continue à creuser et je déterre deux sacs bourrés de jolies liasses de billets de 100 000 lires. Il y en a pour 100 000 millions de lires, soit plus de 50 000 euros. Un joli butin, mais sans valeur. Depuis 10 ans, les lires italiennes sont des objets de collection. Impossible de les changer en euros. Qui donc a pu enfouir ces sacs de billets ? Dans la région, la contrebande de cigarettes était une véritable industrie. Je me dis que j'ai sûrement déniché une planque oubliée. C'est une fausse piste. Au beau milieu des lires italiennes, je tombe sur des marques allemandes. Les contrebandiers ne faisaient pas payer en devises étrangères, contrairement aux commerces locaux. Ischia est très prisé par les Allemands. Ils viennent ici en cure thermale depuis des décennies. Même Angela Merkel a ses habitudes ici. Partout dans les hôtels, les restaurants et les boutiques, on parle allemand. Il fut un temps, c'était la seconde langue des habitants de l'île. Ce trésor doit donc avoir quelque chose à voir avec une activité touristique. Sur un bout de billet, une inscription attire mon attention. C'est une date écrite au stylo. Novembre 1997. Je mène l'enquête. Une dame âgée décédée cette année-là. Elle tenait un restaurant à deux pas de la plage. Il semble qu'elle ne voulait pas mettre son argent à la banque, ni sous son matelas, de peur d'être cambriolée. Et la pauvre femme est morte avant d'avoir eu le temps de déterrer le fruit de son labeur. Si j'avais trouvé des liasses de billets d'euros ce jour-là, vous n'auriez peut-être jamais entendu parler du butin de la plage de Sant'Angelo. L'occasion fait le larron. J'aurais sans doute gardé ce trésor et cette histoire pour moi. La mer dans les veines. Domenico, 40 ans, Lago Ameno. Je ne suis pas né pêcheur en raison du destin tragique de Mimi, un soir de printemps. Mimi, surnommé l'homme de fer. Il demande à mon père de lui prêter sa barque pour la nuit. Les poissons bleus de haute mer ont entamé leur migration vers les côtes. La pêche promet d'être bonne. Mimi est escortée par une autre barque. La mer est étale, le ciel est limpide. Tous deux déploient leurs filets au large de Lago Ameno. Les voix des deux amis résonnent dans la nuit noire. Mimi tombe sur un beau banc de poissons. Il tente de remonter le filet. Il est si lourd qu'il l'entraîne vers le fond. Mimi ne répond plus aux appels de son compagnon. Il repose dans les eaux de Lago Ameno. C'est une tragédie pour mon père. Il se sent responsable. Si je ne lui avais pas prêté ma barque ce soir-là, Mimi serait toujours en vie. Il tourne alors le dos à la mer pour devenir policier municipal. Je ne suis pas né pêcheur, mais la mer coule dans mes veines. Le bruit de vagues qui se brisent sur les rochers, c'est pour moi la plus belle rengaine. À 30 ans, j'abandonne ma boutique et je dis à mon père, je veux être un pêcheur professionnel. Je multiplie les expériences sur les bateaux des autres. Je passe 7 jours en haute mer, là où les poissons volent, sans voir un bout de terre. Et je signe un contrat à durée indéterminée avec la mer. Si je suis vivant aujourd'hui, c'est grâce à elle. Il y a quelques jours, on m'a diagnostiqué une pathologie respiratoire. Je souffre d'apnée du sommeil. En une seule nuit, je peux plonger 136 fois en apnée. C'est comme si je descendais 136 fois sous l'eau, mais en plein sommeil. À la lecture des résultats, le pneumologue m'a regardé droit dans les yeux. Tu peux remercier la mer. L'iode a libéré tes voies respiratoires et elle t'a évité un AVC ou une crise cardiaque. Je lui ai répondu, docteur, je n'ai pas besoin de remercier la mer. Parce que nous autres, nous sommes la mer. Je sais désormais qu'elle m'a rappelé à elle. Non pas pour me prendre quelque chose, mais pour me donner quelque chose. La vie. Il ne faut pas avoir peur de la mer. C'est ce qu'explique Eduardo de Filippo dans l'une de ses poésies. Ô mare, la mer fait peur, ainsi disent les gens, en regardant la mer calme, calme comme une planche. Et ils disent pareil les jours d'hiver, quand la mer se soulève et que les vagues montent d'abord jusqu'au toit des maisons, puis jusqu'aux montagnes. Sainte Vierge, libérez nos enfants. Bien sûr, si quelqu'un se trouve au milieu d'une mer agitée et perd la vie, et je suis le premier à penser quelle mauvaise mort a fait ce pauvre homme et quel triste moment il a passé. Mais il n'a pas été tué. Il est mort en mer. La mer ne tue pas. La mer est mère. Moi, quand je l'entends, surtout la nuit, quand elle bat la falaise et bouge ses mains, ses milliers de mains et ses bras et ses jambes et ses épaules, enragées comme elle, elle s'en fiche. Elle déchire la falaise et je vois qu'elle se retire et se gifle, obstinée, pointilleuse, têtue. Elle la repousse encore une fois avec sa tête, les épaules, les bras, avec les pieds et avec les genoux et elle rit. Et elle pleure. Parce qu'elle veut de l'espace pour se défouler. Moi, quand je l'entends, surtout la nuit, je ne me dis pas « la mer fait peur », mais je me dis « la mer est la mer ». Les poules de l'oncle Liborio. Raffaele, 61 ans, Lago Ameno. Je dois avoir 13 ans ou 14 ans, je ne sais plus. Avec ma mère et ma tante, nous sommes entassés à l'arrière d'un micro-taxi. Le Piaggio à trois roues peine à gravir la pente raide de la falaise du Monte Vico où se dresse le cimetière de Lago Ameno. L'heure est venue de déterrer l'oncle Liborio. Sur cette île, la terre vaut de l'or et faute d'espace, nous sommes contraints d'exhumer nos morts. Après quelques années sous terre, les dépouilles sont placées dans des ossuaires pour laisser la place aux nouveaux arrivants. C'est la loi. Je suis planté devant la tombe éventrée de l'oncle Liborio. Le pauvre homme est mort de vieillesse et j'y étais très attaché. Giovanni, le gardien du cimetière, et son fils Giuseppe, fossoyeur de son état, rabattent le couvercle du cercueil. Le corps est intact, comme momifié dans son beau costume du dimanche. À un détail près. Son crâne, tout beau, tout brillant, tout propre, est posé sur sa poitrine. Je reste pétrifié. L'oncle Liborio tient ce crâne entre ses mains et il me regarde fixement. Giovanni et Giuseppe le hissent sur une terrasse. Les Maccabées y sèchent au soleil avant de rejoindre l'ossuaire. C'est la règle. L'oncle Liborio passe quelques jours à l'air libre, juste à côté d'un poulailler. Cazzo, les poules du gardien vont picorer l'oncle Liborio ? Je quitte le cimetière avec cette idée en boucle dans ma tête. À compter de ce jour, je n'ai plus touché à un morceau, ou même un os, de poulet. Adelante Napoli. Gianni, 41 ans. Ischia Ponte. Je m'appelle Gianni et je veux vous raconter l'histoire de ma voiture Adelante. Au lycée, mon père a étudié Les Fiancés, le célèbre roman d'Alessandro Manzoni. Dans un passage, Don Abbondio, l'un des protagonistes, dit en espagnol à son cocher « Adelante, Pedro, con riuso, se puedes », c'est-à-dire « En avant, Pedro, avec discernement, si tu peux ». Parce que mon père s'appelait Pietro, comme Pedro le cocher, il a hérité de ce surnom. En 1965, il a acheté une Fiat 500 flambant neuve et il l'a aussitôt baptisée Adelante. Avec cette voiture, il a fait les 400 coups aux quatre coins d'Ischia. Elle n'a jamais quitté l'île. Mon père, lui, nous a quittés trop tôt et j'ai hérité d'Adelante. Je l'ai entièrement restaurée. Ça m'a coûté 10 000 euros. La carrosserie était un peu rouillée et je l'ai customisée en bleu ciel, la couleur du club de foot de Naples. L'année dernière, avant l'ouverture du championnat, j'ai fait peindre un N entouré d'un cœur sur le capot. Et j'ai posé un petit portrait de Maradona sur le pare-choc arrière. Il faut croire qu'Adelante a porté chance aux Napolitains. Ils ont finalement été sacrés champions d'Italie cette année. On attendait ça depuis des décennies. C'est une fierté et une revanche pour nous autres du Sud. Ce n'est pas une simple question de football, c'est quelque chose de plus profond, qui fait vibrer votre âme, qui vous rend heureux ou malheureux, c'est selon. Quand j'étais étudiant à Naples, j'allais au stade de San Paolo tous les dimanches. Depuis que je suis retourné vivre à Ischia, c'est un peu plus compliqué. Je dois prendre le bateau et de temps en temps, on a droit à des navettes le soir de match, quoi. Un ferry nous attend jusqu'à minuit pour nous ramener sur l'île. Je suis convaincu qu'Adelante portera chance au Napoli l'année prochaine. Adelante Napoli!
Adelante Napoli, che poi tra l'altro era la frase di un famoso commentatore di circa 10 anni fa, simpaticissimo, che se non sbaglio è Carlo Alvino, una cosa del genere, che diceva proprio quando c'era Lavezzi, Adelante Napoli, Adelante Lavezzi, e quindi c'è anche questo parallelismo, solo che la macchina già era prima Adelante, già dal 65, quindi c'ha qualche anno in più.
C'est tout.